Bonjour Michael Eschenwald.
Bonjour.
Alors nous avons le plaisir de vous retrouver.
Mais c'est un plaisir pour moi.
Que c'est un plaisir pour vous.
Absolument,
de retrouver
c'est vraiment un plaisir de revenir ici. Alors pour la ville et aussi pour mon orchestre, disons mon orchestre.
Parce que vous dites encore votre orchestre. Ouais,
parce que c'est quelque chose de très spécial entre nous. Alors c'est mon orchestre dans mon cœur au moins.
D'accord.
Mais bien
d'accord.
sûr, je l'ai laissé à mon successeur. Je ne veux pas garder la main sur l'orchestre. Il y a des périodes dans la vie comme ça, mais dans mon cœur, c'est encore un orchestre qui est très important.
Vous êtes encore très proche de cet orchestre, oui. Vous avez repris les destinées d'un autre orchestre actuellement ou pas?
Non, je ne vais pas prendre d'autres postes fixes. Là. Je suis lié avec l'Orchestre national de la Belgique, l'Orchestre de Saarbrück et aussi au Danemark. Et je vais faire travailler ailleurs, par exemple à l'Opéra de Paris. Je vais faire Falstaff juste après la rentrée. Alors, il y a des bases dans ma vie comme ça, mais... comme directeur musical ou chef principal, c'est derrière moi.
C'est derrière vous, d'accord. Donc maintenant, vous êtes chef invité.
Mais vous savez, c'est quand même important pour moi de me sentir lié avec les musiciens et musiciennes avec lesquels je travaille. Alors, je n'ai pas envie de voir des nouveaux musiciens tout le temps, mais des groupes que je vois régulièrement, c'est...
Les orchestres que vous rencontrez régulièrement.
C'est ça, où on se sent bien.
Voilà. Alors, il y a aussi des compositeurs que vous rencontrez régulièrement.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, là, on va parler donc du concert de vendredi, avec, j'ai envie de dire, deux œuvres phares du répertoire.
Hein, absolument, ouais.
Qui sont distantes à quelques mois près d'un siècle.
C'est ça, exactement. Bravo. Hein, oui, c'est
alors, le troisième concerto pour piano de Beethoven, donc avec le soliste sera Alexandre Tarot. Donc on va en parler tout de suite. Et puis on aura aussi la quatrième symphonie de Mahler. Vous continuez votre cycle Mahler, si je puis dire, avec
moi,
l'orchestre
non, mais
de Montpellier.
C'était une des lignes que j'ai essayé de mettre ici, qu'on voit toutes les œuvres de Mahler pendant ma période ici. On a enregistré la quatrième durant le Covid, mais alors il faut qu'on le présente au public en live ici.
Voilà, et donc avec Cyriel Ndjiki qui sera la soprano pour le dernier mouvement,
pour le dernier mouvement,
ouais. avec du chant. Alors, parlons d'abord peut-être de ce troisième concerto de Beethoven. Donc on dit un siècle entre les deux, et puis en plus c'est au tournant du siècle à chaque fois que c'est composé, c'est au tout début du 19e siècle
que
Beethoven compose ce concerto. Qui sera créé en même temps que la deuxième symphonie et que le Christ au Mont des Oliviers. Vous voyez,
vous avez raison.
Mes biographies auparavant. Et puis, moi j'aime bien situer un petit peu dans l'œuvre d'un musicien, parce qu'on a tendance à penser peut-être en l'écoutant que c'est une œuvre un petit peu plus de la maturité, un peu plus tardive. Alors, ce n'est pas vraiment le cas. Encore que la maturité est venue tôt chez Beethoven.
Ouais.
Hein, mais il vient de composer les sonates de l'opus 31, dans la fameuse Tempête.
Ouais.
Et puis les quatuors de l'opus 18 ne sont pas très loin. Ils ont été,
non. Et puis là, c'est exactement la période de transition dans sa vie. Vous avez le concerto ici. Vous avez aussi l'héroïque.
Oui, qui va
le troisième,
juste derrière.
Qui est plus ou moins dans la même tonalité. Ici, c'est ut mineur, et là, c'est si bémol majeur, mais avec le deuxième mouvement, la fameuse marche funèbre, qui est en ut mineur aussi.
D'accord. Et puis, pour situer dans la biographie de Beethoven aussi, c'est ces problèmes de surdité sont de plus en plus envahissants.
C'est ça, mais il
était
quand même...
la surdité complète.
Non, il était encore soliste, là, c'est lui qui a créé la partie de solo à la création.
Alors, qu'est-ce que vous... J'évoquais la surdité, et puis on a un compositeur qui est en train de s'affirmer comme compositeur romantique, on pourrait dire. Hein, il est encore apprécié du classicisme de Mozart dans l'opus 18. Mmh. Et puis là, on voit que c'est le romantisme qui se construit. Pour vous, comme chef, vous êtes dans l'intimité de la partition, je puis dire. Qu'est-ce qu'on ressent des difficultés que traversait Beethoven à l'époque, notamment avec cette surdité, il en témoigne un peu dans sa correspondance, qui est un souci grandissant.
Mais je sens cette énorme force d'expression qui est à l'intérieur. Le drame intérieur de Beethoven, vous voyez, dès la première mesure, là, c'est tout, il y a tout le monde, toute la terre qui tremble. Et c'est un drame existentiel qui se déroule devant nos yeux ou devant nos oreilles, tout de suite. Et puis, le soulagement, le deuxième mouvement qui est d'un autre
très
monde.
Bon mouvement, là,
moi, c'est tout à fait dans notre monde. Nous sommes dans une autre tonalité, d'une autre façon d'écrire. Et puis, on retombe sur le drame du début du troisième mouvement, qui arrête avec quand même un majeur, un espoir, encore une lumière.
Mmh. Oui, et puis, il y a chaque mouvement, sa façon de chanter, très différente, il me semble. Il y a quelque chose d'un peu... un petit peu raide dans le premier mouvement, et puis il y a cette grande tendresse du deuxième mouvement, du mouvement lent, et puis il y a le mouvement suivant qui a presque quelque chose de joyeux au démarrage.
Oui, c'est ça. Mais il y a un équilibre entre le côté joyeux et le côté extrêmement dramatique. Vous voyez, cette drame qui est dedans... Ça ressemble bien sûr plus au premier mouvement, mais la juste position de ces atmosphères là, entre le premier et le troisième et la deuxième, où on est dans un monde de rêve ou d'espoir, qui peut-être nous lie un peu avec Mahler aussi, parce que c'est la même chose dans Mahler, cette côté visionnaire qui est dans le deuxième mouvement de Beethoven, qui est surtout la base de toutes les œuvres de Mahler. Alors je crois que c'est quelque chose qui les lie. D'ailleurs, Mahler a très souvent dirigé Beethoven.
Oui. Et puis il y a ce sens du contraste entre les mouvements qu'ils partagent.
Oui.
C'est les contrastes très 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 forts d'un mouvement.
Mais vous
à
savez, quand on commence le deuxième mouvement, c'est le pianiste qui le commence avec un accord qui n'a rien à voir avec les tonalités qu'on a eues avant. C'est tout à fait un autre monde, une autre tonalité, un autre monde, avec le premier accord du piano. C'est comme ça, n'est-ce pas?
Alors, vous parlez du piano, je découvrais une anecdote qui avait été... on raconte dans les livres consacrés à Beethoven, avec son élève Ries, qui était un pianiste tout à fait méritant, et puis qui n'était pas le créateur du concerto,
non,
mais qui l'a joué un petit peu après, qui a écrit sa propre cadence pour le premier mouvement, cadence un peu difficile. Beethoven lui a dit non, pour écrire plus simple, mais le jour du concert, il a quand même choisi la version difficile.
Ça
Et je me disais, quelle est la liberté du pianiste, notamment par rapport à cette cadence? Alexandre Tarot va... Alors, il y en a beaucoup de cadences ont été écrites pour cette partie du concerto.
Je crois qu'il va jouer la cadence de Beethoven. Beethoven a écrit sa propre cadence pour ça. Et au moins, ce que j'ai entendu, c'est qu'il joue la cadence de Beethoven, qui est assez large, comme d'ailleurs. Je crois que c'est 5 minutes, 6 minutes, ou des choses comme ça. La cadence de Beethoven à la fin du premier mouvement, c'est assez important comme cadence.
Oui, ce n'est pas juste un petit passage à l'initiative d'un autre compositeur ou du pianiste lui-même. C'est carrément
c'est écrit pour lui-même.
Une partie de l'œuvre, vraiment. Quel rapport vous avez quand vous dirigez un concerto, avec le pianiste, avec le soliste, on va dire, en général? Est-ce que vous lui laissez sa propre interprétation? Est-ce que vous faites... On connaît cette anecdote de Bernstein avec Glenn Gould, qui est le concerto de Brahms, qui était... Bernstein se sentait obligé au début du concert de dire « Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que fait le pianiste, mais c'est intéressant, c'est respectable, donc je dirige quand même. »
Oui, c'est ça. Non, moi c'est... J'adore accompagner. Parce que quand je rencontre des solistes, il y a toujours quelque chose de nouvel à trouver. Et j'essaie toujours d'intégrer ma propre interprétation avec l'interprétation du soliste ou de la soliste pour arriver à un niveau plus haut que moi. Et je trouve ça, c'est extrêmement intéressant, comme pour moi, chef, de ne pas imposer ma messe, on ne peut pas avoir un soliste s'il faut pas accompagner ou jouer avec quelqu'un. Alors, c'est vraiment quelque chose qui m'attire énormément de travailler ça. Et par exemple, j'ai fait tous les concertos de Beethoven avec Alfred Brendel à plusieurs reprises. Et là, j'ai appris énormément de choses. Et Alfred m'a dit aussi, alors, ah, tu veux comme ça, alors, on fait comme ça. C'est pas juste, je fais comme ça, voilà. Voilà. C'est quelqu'un qui était toujours à la recherche de quelque chose.
D'accord. Et cette attitude, je me dis, ça peut être la même avec les différents pupitres de l'orchestre.
Absolument. Mais parce que un orchestre, c'est des êtres humains. Et avec des êtres humains, on a toujours des réflexions, des sens, des émotions, des choses, des expériences. Alors, je répète pas la version que j'ai faite la dernière fois. Quand j'arrive directement à l'orchestre avec une musique que je connais bien, comme par exemple les deux œuvres vendredi, j'essaie toujours d'écouter ce qu'ils ont à offrir. Et comment est-ce qu'on peut intégrer les choses que nous avons ensemble pour une version commune?